France Inter, il est 7h sans écho.
France Inter, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le mercredi 19 juin. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'inquiétude des demandeurs d'emploi au lendemain des annonces gouvernementales sur les conditions d'indemnisation des chômeurs. Des conditions beaucoup plus strictes qui pourraient toucher 250 000 allocataires. On va en parler évidemment ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
Votre invité à 7h50.
Eh bien, une fois n'est pas coutume, ils sont tous d'accord. Patronat et syndicats rejettent en bloc cette réforme de l'assurance chômage, mais ne portent-ils pas une grande responsabilité en ayant été incapables de se mettre d'accord dans des négociations qui ont duré des semaines? N'est-ce pas normal que le gouvernement reprenne la main? On pose la question à Yves Verrier, secrétaire général de FO. Il sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa. Les autres titres, Agnès.
Fin de garde à vue pour Michel Platini, aucune charge n'a été retenue contre l'ex-patron de l'UEFA. 4 ans de plus, Donald Trump lance sa campagne pour la présidentielle américaine de 2020. Une nouvelle journée d'épreuves pour les candidats au bac, mais au fait, que devient votre copie après la salle d'examen? Et puis retour sur la grève très suivie hier à Radio France.
Et à 8h20, la bataille des municipales, elle se prépare à La République En Marche. Le délégué général du parti, Stanislas Guérini, est notre invité ce matin dans le grand entretien. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Profondément injuste, extrêmement dur, la réforme de l'assurance chômage présentée hier par le gouvernement continue ce matin de provoquer la colère des syndicats. Pour désendetter l'Unédic à hauteur de 3,4 milliards d'euros, 250 000 chômeurs pourraient voir leurs droits diminuer ou disparaître. À partir du 1er novembre prochain, pour être indemnisé, il faudra ainsi avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 sur 28 actuellement. Un durcissement qui inquiète les demandeurs d'emploi rencontrés hier par Solène Cressan.
Devant une agence Pôle emploi de Paris, certains demandeurs ont déjà pris connaissance d'une partie de la réforme. Ils le savent, la durée de travail nécessaire pour ouvrir les droits est rehaussée. Aujourd'hui, il faut justifier de 4 mois de travail sur les 28 derniers. À partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Et dans ces conditions, Gabrielle, une demandeuse d'emploi, n'y aurait pas accès.
Ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'en fait, ils proposent que des missions courtes en ce moment. Là, il me manquait plus que 2 mois pour avoir le nombre d'heures qu'il fallait pour correspondre à la nouvelle règle qui va passer au mois de novembre. Ça aurait été compliqué.
Dans son discours, le Premier ministre l'a rappelé. Les règles actuelles datent de 2009. En pleine crise, sous Nicolas Sarkozy, les conditions d'accès à l'assurance chômage étaient passées de 6 à 4 mois. 2 ans plus tard, en 2011, la CFDT s'était même battue pour maintenir ces 4 mois, considérés comme un vrai progrès pour les demandeurs d'emploi. Mais la conjoncture est meilleure, dit Édouard Philippe. Ce durcissement de l'accès à l'assurance chômage est présenté comme la principale mesure d'économie de la réforme. 2,85 milliards d'euros, c'est plus des 3/4 de l'effort total.
Autre mesure annoncée hier, la dégressivité des allocations pour les cadres qui gagnaient plus de 4 500 euros bruts par mois. Leur indemnisation baissera de 30% à partir du 6e mois. Il sera également impossible de toucher plus au chômage qu'en travaillant. Et puis le système du bonus-malus sera donc mis en place à partir du 1er janvier 2020 pour les entreprises qui abusent des contrats courts. 7 secteurs concernés, notamment l'hébergement et la restauration, mais pas le bâtiment. Ce que déplore Jean-Luc Bousquet, il préside l'Union des métiers de l'industrie hôtelière en Dordogne.
Aujourd'hui, tout le monde n'est pas soumis à cette réglementation du bonus-malus. Le bâtiment qui embauche autant de personnes que nous et qui recrute autant de monde que nous, et ils ne sont pas impactés par la mesure. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que souvent, les contrats courts chez nous, ça répond à des pics de saisonnalité ou des pics d'activité que l'on ne peut que compenser que par du contrat court. C'est pas qu'on voudrait pas embaucher des CDI, hein, mais malheureusement, quand vous êtes ouvert pour les entreprises saisonnières, quand vous êtes ouvert d'avril à octobre, vous avez 6 mois de non-activité au niveau même de votre entreprise. Et en aucun cas, ça peut inciter à faire du CDI.
Autrement dit, vous allez devoir payer.
On va payer un malus, effectivement. Mais, par contre, la mesure dans notre secteur, c'est vrai aussi qu'elle fait un distinguo entre les entreprises de plus et de moins de 11 salariés. Les entreprises de moins de 11 salariés ne seront pas impactées par ce système.
Un propos recueilli par Stéphane Garcia. Michel Platini est donc ressorti libre cette nuit vers 1h du matin de l'office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre. Après plusieurs heures de garde à vue, aucune charge n'a été retenue contre l'ex-président de la FIFA. Interrogé sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar, alors qu'une enquête préliminaire est ouverte pour corruption privée et association de malfaiteurs, son avocat William Bourdieu Bourdon dénonce beaucoup de bruit pour rien. Michel Platini, que nous entendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h05, Agnès, aux États-Unis, le ton est donné pour les prochains mois de la campagne présidentielle.
Une campagne qui s'annonce violente jusqu'à l'automne 2020. En meeting en Floride devant plus de 20 000 partisans républicains, Donald Trump a non seulement officialisé sa campagne pour un second mandat, mais il a accusé les démocrates d'être guidés par la haine et de vouloir détruire le rêve américain. Donald Trump et son nouveau slogan, 4 ans de plus.
Peu importe l'étiquette qu'ils utilisent, voter pour n'importe lequel de ces démocrates en 2020, c'est voter pour le socialisme radical et la destruction du rêve américain. Alors nous n'oublierons jamais que cette élection, c'est la vôtre. Elle porte sur vos familles, votre futur et le destin de votre pays. Nous débutons cette campagne avec les meilleurs résultats possibles, le meilleur programme. Et nous sommes les seuls à avoir une vision positive du futur de notre pays.
Donald Trump à Orlando hier soir et nous serons en direct d'Orlando dans le journal de 8h. Autre course électorale, mais même type de candidat. À Londres, Boris Johnson fait plus que jamais figure de favori pour prendre la tête du parti conservateur à l'issue du débat organisé hier soir sur la BBC. Élodie Goulesque.
5 hommes, un job, une heure avec vos questions vont aider à décider qui sera le prochain Premier ministre.
Cette fois-ci, il a daigné participer au débat. Boris Johnson était attendu de tous et en particulier de ses adversaires conservateurs. Si l'ancien maire de Londres a peu de soucis à se faire puisqu'il a jusqu'ici obtenu le soutien de 126 députés conservateurs dans la course au leadership. Sa prestation d'hier soir n'a pas tellement marqué. Épaules basses, mains sur les genoux, le candidat pro-Brexit ne semblait pas plus à l'aise que les autres candidats au perché sur son tabouret. Voilà pour le langage corporel. Pour ce qui est du fond, Boris Johnson n'a pas non plus brillé par sa précision.
Nous devons quitter l'Union européenne au 31 octobre. Il faut se préparer à un no deal. Et c'est comme ça qu'on obtiendra l'accord dont nous avons besoin.
Qu'il s'agisse du Brexit, de la réduction des impôts ou de la question de l'Irlande du Nord, aucun des 5 candidats n'a su donner de solution concrète, au grand désespoir des citoyens qui posaient leurs questions à distance.
Personne ne me donne une vraie réponse pour savoir ce qu'il va se passer en cas de no deal.
Au final, aucun gagnant de ce débat plutôt plat. Le perdant, sans aucun doute, reste le parti conservateur. Londres, Élodie Goulesque, France Inter.
Et selon le Times, le chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn, devrait soutenir officiellement aujourd'hui l'organisation d'un second référendum sur le Brexit.
Il est 7h08, retour à présent sur la grève qui a perturbé les antennes de Radio France hier.
Des antennes fortement perturbées, 88% des journalistes en grève à Inter, cela ne s'était jamais vu. Une mobilisation à l'appel de l'intersyndicale pour dire non au plan de 60 millions d'euros d'économie de la direction et à la suppression d'environ 300 emplois. Une mobilisation visible notamment lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à la mi-journée, Alexandra Hakoun.
Le chœur des esclaves de Verdi entonné dans l'agora de la Maison de la Radio, clin d'œil du chœur de Radio France, en grève hier à 90%. Face à lui, des techniciens, journalistes, musiciens, producteurs, personnel administratif, plus de 300 salariés et une intersyndicale qui tente de faire les comptes.
En gros, plus de 3/4 des salariés aujourd'hui étaient mobilisés par ce mouvement de grève. Il va falloir que la direction l'entende.
Au même moment, vers midi, la direction parle plutôt d'une mobilisation à hauteur de 37%. En tout cas, le message ici est un peu plus clair.
Il n'est pas question de négocier ce plan, quelle que soit la méthode employée par la direction.
Une direction accusée d'entretenir un certain flou.
Elle ne nous donne aucune visibilité. Elle nous dit juste qu'il y aura des postes en moins, il y aura des réorganisations du travail pour tenir la trajectoire financière.
On parle de quelques 300 suppressions de postes, de quoi générer beaucoup d'inquiétudes et pas seulement dans les antennes parisiennes.
L'inquiétude, elle est très grande dans le réseau aussi parce que la charge de travail, elle est tous les jours un peu plus lourde avec le web, avec les matinales filmées, avec deux journalistes en matinale, les personnels d'antenne. Le mouvement, il est général aujourd'hui, est un vrai appel du 18 juin.
Et s'il n'est pas entendu cet appel, tous promettent une rentrée agitée pour que la radio publique continue de rayonner, chante le chœur de Radio France dans un hymne à la joie tout spécialement revisité.
La direction de Radio France qui a pris acte de cette mobilisation et qui entend poursuivre le dialogue avec les syndicats. Troisième jour d'épreuve pour les candidats au bac. Au programme aujourd'hui, les sciences et les langues pour le bac général et uniquement les langues pour les bacs techno. Pour la philo, l'histoire géo et le français, les corrections ont déjà commencé et Nathalie Colle a retracé le parcours de votre copie après la salle d'examen.
aussitôt récupérées par les surveillants, les copies sont rendues anonymes, sous le contrôle de Marilyn Valaja, responsable des examens au rectorat de Limoges.
Les personnels qui sont chargés de cette mission-là massicotent, découpent le haut d'une copie. Elle n'a plus qu'un numéro de candidat.
Remise ensuite dans de grosses enveloppes, les copies sont transférées avec beaucoup d'attention dans plusieurs lycées, puis confiée au correcteur comme Hervé Domergue.
77 copies à corriger en un peu plus de 10 jours.
Ce prof d'histoire-géo de Brive va ramener chez lui des copies aux viennoises pour être sûr de ne pas avoir celles de ses élèves. Et le programme s'annonce chargé.
Je ne peux pas me permettre de passer quelques jours sans corriger. Donc il y a une organisation au moins 8 heures par jour, week-end compris. C'est une épreuve peut-être physique, on va dire, et ça demande quand même beaucoup de concentration.
Et tandis qu'une commission d'harmonisation se réunit ensuite pour valider les notes, les copies reviennent au centre d'examen, où elles pourront être consultées par les candidats jusque mi-juillet. Ça arrive assez souvent, selon Marilyn Valaja, du rectorat.
La plupart du temps, des candidats qui n'ont pas compris leur note ou qui ont une plus mauvaise note que ce qu'ils ont eu pendant l'année et qui s'étonnent. Il y a ce cas-là, et puis il y a aussi des candidats qui ont de très bonnes notes et qui ont envie de revoir leurs prestations et être satisfaits de ce qu'ils ont fait.
Et pour ceux qui en redemandent, les copies seront conservées un an au rectorat, puis détruites, sauf un petit échantillon confié pour la postérité aux archives départementales.
Et résultat du bac, le 5 juillet. Mieux recycler les canettes et les bouteilles en plastique. La secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson met en place aujourd'hui un comité de pilotage pour développer la consigne. Industriels, élus et ONG doivent réfléchir à l'uniformisation et l'efficacité des méthodes de collecte. Première conclusion attendue à la rentrée pour l'examen du projet de loi anti-gaspi. La Coupe du monde féminine de foot avec un engouement qui ne touche pas que l'hexagone où se déroulent les matchs. Les Italiens sont également en train de découvrir le foot féminin qui fait de belles audiences à la télé. Les Italiennes qui viennent d'ailleurs de terminer première de leur groupe. Correspondance à Rome, signée Mathilde Imberti.
20 ans que l'Italie n'avait pas été représentée dans une Coupe du Monde féminine de football. Autant dire que le pays découvre. Lorenzo suit tous les matchs, mais il a encore un peu de mal à citer le nom des joueuses.
Dietro c'è la gamma, mi sembra, si chiama. La capitana, sì.
Hier soir, le match Italie-Brésil était retransmis sur la première chaîne de télévision italienne Rai Uno, totalement inédit. À la mesure de cette équipe étonnante, souligne la commentatrice de la Rai, Tiziana Alla.
Se qualifier en huitième, c'est déjà dépassé toutes les attentes. Les Italiens sont tombés amoureux de cette équipe qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils apprécient leur jeu, leur enthousiasme et leur amour du maillot italien.
Saragama, la capitaine italienne et son équipe finissent première de leur groupe, bien que dominée par le Brésil 1-0. Lorenzo va continuer de les suivre, un tifoso finalement conquis.
Franchement, c'est quand même différent du foot masculin. C'est peut-être moins spectaculaire, mais bon, le niveau chez les filles a bien augmenté. Et si elles continuent à jouer comme ça, elles peuvent aller très loin dans le mondial.
Ce mondial doit servir aussi à promouvoir le football pour les filles dans le pays. L'Italie compte 24 000 licenciés, c'est 7 fois moins que la France. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Et au programme aujourd'hui, Écosse-Argentine à Paris et Japon-Angleterre à Nice. Avis aux amateurs, il reste des places.